Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est toujours Lenny pour les previews NBA de la saison 2021. Vous commencez à avoir l'habitude, je présume. Aujourd'hui, on va s'occuper des places 12. Voilà, on continue sur notre petit bonhomme de chemin. Je vous refais un topo très rapidement. Comme d'hab, donc deux équipes, une de l'Est, une de l'Ouest, ça vous savez. Et évidemment, on revient d'abord sur ce que l'équipe a donné, enfin ce que les équipes ont donné, mais donc on divise en deux quoi. Ce que les équipes ont donné sur la saison 2020. Ensuite, on s'occupe de l'intersaison avec les transferts, les trades, la free agency et la draft. Et enfin, direction le futur pour aller voir ce que je pense de l'équipe pour la saison qui arrive, à savoir la saison 2021. Voilà, le petit topo rapide, ça c'est fait. Écoutez, je vous laisse avec l'introduction, c'est parti, allons-y. Brandon with two on the clock for the win. Yes, got it! 2/10 of a second to go. Timeout, Utah, Brandon Ingram. Catch and shoot as we watch the replay. Une fois n'est pas coutume, on va aujourd'hui encore, après hier et les Spurs, commencer par une équipe de la conférence Ouest, à savoir les Pelicans. Voilà, on parle de la Nouvelle-Orléans aujourd'hui. Alors, on commence donc. Saison 2020, les Pelicans, l'équipe la plus hype de la saison, je pense. Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est une 13e place pour 30 victoires et 42 défaites. Hein. On commence, mine de rien, légèrement à remonter vers les équipes qui n'étaient pas affreusement dégueulasses. Alors, l'équipe la plus hype de la saison, qui s'est, hein, on va le dire, pas trop mal débrouillée, même plutôt bien, même malgré, on aurait tous kiffé voir les Pelicans en playoff pour la première année de Zion. Mais bon, ça n'est pas le cas, ça finit 13e, avec une bulle bien crado quand même, hein, parce qu'ils avaient encore la possibilité de, mais non. Bon, on revient un peu sur la saison avant de ce qui s'est passé dans la bulle. Zion qui était blessé. Au début de la saison, qui a manqué le début de la saison et pas mal de matchs, hein, puisqu'au final, il aura joué 24 matchs. 24 matchs, mais quel début de carrière pour Zion. Il nous a directement régalé sur ses premiers matchs. Il a pris feu à 3 points contre les Spurs, si je ne dis pas de bêtises, pour son premier match. Il est venu arracher la balle des mains de Giannis comme si c'était un enfant de 4 ans pour son deuxième ou troisième match. Enfin bon, il a clairement pas déçu les fans pour son début de carrière. Donc ça déjà, Zion, valeur sûre pour le moment. Si on croise les doigts, et j'en reparlerai, son corps tient pour le reste de sa carrière. À côté de ça, et de cet effet Zion, on a l'effet Brandon Ingram, mine de rien, puisque claire explosion de Brandon Ingram, pardon, qui est devenu une véritable machine offensive. Le gars, ça y est, il tourne à 25 points, allez, 24 points de moyenne en dormant. Il est là, ça enfile du shoot, ça trace dans la raquette, c'est magnifique. C'est un joueur que étant fan des Lakers, j'étais un peu déçu de le voir partir chez les Pels, mais bon, enfin, déçu pour les Lakers et en même temps content de le voir aller dans une équipe où il serait responsabilisé. Et faut avouer que ça fonctionne bien. Ça fonctionne très très bien, puisque donc à la fin de la saison, il est All-Star et MIP. Donc voilà, hein. Est-ce qu'il faut rajouter des choses sur BI, je ne sais pas. Mais clairement, il faut surveiller le potentiel de ce garçon, car Kevin Durant n'a qu'à bien se tenir. Hein. Voilà, même s'il a l'air complètement défoncé tout le temps, je ne sais pas ce qu'il prend pour être comme ça. En tout cas, clair potentiel, voilà, le potentiel de Brandon Ingram a été révélé. Si on revient aussi du coup sur les autres joueurs, Lonzo Ball, qui continue son petit développement tranquillement, hein, lui, au-delà du potentiel qui se révèle, on va dire, petit à petit, on gratouille ce potentiel. Voilà, moi, je sais pareil, c'est un joueur qui apporte de la défense, qui a une vraie vision de jeu. Malheureusement, tout ce qui est shoot, enfin c'est très très compliqué de ce côté-là pour Lonzo. Il a très mal démarré, mais bon, c'est quelque chose qui va se travailler. J'ai confiance en lui. Ça peut devenir un bon shooter. Enfin, un bon shooter, peut-être pas, mais ça deviendra un bon attaquant. C'est déjà un bon attaquant, mais surtout pour les autres, il faut que pour lui, il puisse se créer aussi, qu'il augmente un peu sa moyenne de points. Mais c'est vrai que en termes de vrai meneur capable de défendre et de faire tourner l'équipe, c'est clairement ce qu'il faut pour le futur des Pélicans pour le moment. Donc ça fait plaisir. Autour de ça, on a bah, du Jrue Holiday, évidemment, qui, on en parlera juste après, lui, a quitté l'équipe hein, cet été. Mais forcément, Jrue Holiday, vrai gars des Pels, qui a continué son petit vrai gars sûr sur qui on peut compter, 20 points et 7 passes, quoi. Voilà, le gars est toujours là avec de la défense, évidemment. Le bon Jrue Holiday. Josh Hart qui a déboulé aussi du coup avec le reste des jeunes Lakers, des ex-Lakers qui apportent du peps en sortie de banc, son shoot qui a appris aux côtés de JJ Redick, évidemment. Et autour de ça, on a Jackson Hayes, hein, le jeune pivot des Pels, qui est le grand grand pivot longiligne, capable d'aller toucher le plafond de sa salle, qui se développe aussi tranquillement tranquillement. Et c'est vrai qu'ils avaient récupéré aussi Jalil Okafor, qui a un peu joué, mais bon, c'est pas le joueur sur qui tout est reposé. Non, malheureusement, ils ont craqué lors de la bulle, alors qu'ils avaient une petite chance d'aller jouer le play-in. Bon, voilà, c'est comme ça. Pourtant, la NBA les aura poussés vers le fait de jouer la bulle, hein. On va pas se mentir. Adam Silver, je pense qu'il voulait voir Zion contre LeBron. Mais globalement, voilà, maintenant, première saison de transition. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Eh ben, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Les bases sont posées et il faut envoyer directement pour la deuxième saison. Mais avant d'envoyer en 2021, il s'est passé pas mal de trucs du côté de la Nouvelle-Orléans cet été, slash hiver, ouais, parce que, enfin, automne-hiver, mois de novembre, hein, on dira, puisque c'est vrai que la draft et la free agency ont été clairement décalés. Mais donc, on va pouvoir parler de ça tranquillement. Donc, par quoi on commence? Eh bien, écoutez, le gars qui a re-signé et qui a pris un bon petit pactole pendant 5 ans, du coup, Brandon Ingram, évidemment, je parle de lui, qui donc s'est vu proposer un contrat max par les Pelicans, qui ont très bien fait. C'est un joueur, je pense, sur qui ils peuvent largement miser pour leur avenir. Et donc voilà quoi, le gars prend 160 millions sur 5 ans. Très bien, très très bien. C'est ce qu'il fallait faire pour Brandon Ingram. Rien à dire dans la continuité de ce qui vient de se passer. À côté de ça, il y a quand même un petit changement de coach, hein. Évidemment, faut qu'on en parle. Alvin Gentry, qui a été remercié après son passage, on va dire, affreux dans la bulle. Eh bien, c'est Stan Van Gundy qui va prendre sa place au coaching. Alors, et il n'est pas réputé pour jouer rapidement. Il va falloir qu'il s'adapte, hein, parce que ça, avec cette équipe, Lonzo Ball à la main, Zion Williamson et Brandon Ingram, hein, qui sont le trio du futur, crois-moi, il va falloir que cette équipe, elle est faite pour courir cette équipe. Donc il va falloir que Stan Van Gundy, autant il peut apporter des belles choses en défense, autant en attaque, il va falloir qu'il s'adapte et que cette équipe court. Voilà, donc ça c'est pour le coaching. À côté de ça, bon, bah, il y a le départ, enfin le départ, le trade de Jrue Holiday, hein. Les Bucks ont récupéré Jrue Holiday contre Eric Bledsoe, excusez-moi, et un paquet de tours de premiers tours de draft. Je crois qu'il y a 3 premiers tours de 2024, ou même 4 premiers tours de 2024 à 2027. Donc bon, bah, les Pélicans se régalent là-dessus. Plus Eric Bledsoe. Alors, on verra dans la dernière partie comment le coach pourra gérer tout ça sur le backcourt. Mais Eric Bledsoe, c'est quand même un joueur intéressant. En plus, il reste assez jeune, donc dans cette équipe, c'est vrai que Jrue Holiday, c'est bien qu'il parte à Milwaukee quand même, ça lui permet de jouer le titre, hein. C'est un joueur qui est vachement apprécié, et donc je pense que tout le monde est content de le voir à Milwaukee, et que c'est un très bel apport pour Milwaukee. On en parlera dans la preview qui sera consacrée aux Bucks. Dans ce trade également, il y a Steven Adams qui quitte OKC. En fait, ils perdent un vétéran qui avait passé je ne sais pas combien de temps chez les Pels pour récupérer un vétéran qui avait passé une dizaine d'années du côté du Thunder. Autant dire que la raquette Steven Adams, Zion Williamson, bon, quand tu mets deux frigos dans la raquette, normalement tu devrais poser problème à l'équipe d'en face. Donc c'est super cool, c'est un joueur, c'est pareil en fait, hein, il va largement compenser le départ de Favors et de Okafor. Bon, Okafor n'était pas beaucoup utilisé, mais il vient ajouter un bon gros morceau de viande. Alors, est-ce qu'ils seront compatibles tous les deux dans la raquette? Puisqu'on sait que Steven Adams, c'est pas un mec qui shoot à 3 points. Zion est capable, mais on sait que Zion, tu préfères l'avoir près du cercle, hein, pour écraser tout le monde et venir remettre des grands tomards. Donc, j'ai peur que ça encombre un peu la raquette. Mais normalement, je pense que ça devrait le faire. Ils devraient pouvoir. Ce sont des joueurs intelligents. Ils devraient pouvoir s'adapter l'un à l'autre et faire en sorte que cette raquette fonctionne. Et à la draft, quand même, hein, puisque les Pélicans ont drafté en 13e position, Kira Lewis, donc jeune guard plein de talent qui peut faire du bien, hein, à voir ce que ça va donner. Je pense qu'il peut très bien s'adapter à cette équipe. Donc derrière Lonzo Ball, enfin, quant à Lonzo Ball pour apprendre, c'est pas mal, hein. Lonzo Ball, Eric Bledsoe, c'est pas des peintres, hein, non plus. Enfin, un peu des peintres au shoot pour Lonzo, mais ça va. Je pense que Kira Lewis, il tombe quand même dans une jolie équipe qui a un futur assez radieux. Donc c'est très intéressant aussi ce qui est le choix qui a été fait lors de la draft. Et puis voilà, après, à part ça, il y a quand même, bon, le départ, je l'ai dit, Derek Favors, Jalil Okafor, Etwan Moore qui part chez les Suns. Et puis Alvin Gentry, du coup. Voilà, je pense que gagner, enfin, avoir Stan Van Gundy au coaching, c'est toujours mieux que Alvin Gentry, hein, parce qu'à part la folie en attaque et faites courir les jeunes. Bon, Alvin Gentry, c'est pas le plus grand tacticien de son époque, hein, quand même. Au coaching, on a vu mieux. Mais du coup, en parlant de coaching, Stan Van Gundy va avoir du travail pour la saison 2021. Et on peut en parler tout de suite. Je le disais, il va devoir s'adapter pour cette équipe et faire en sorte que ça court. Que cette équipe devienne forte en défense, puisque avec les. Bon, Lonzo, on l'a dit, Lonzo, c'est un vrai défenseur. Il faut que Brandon Ingram fasse les efforts quand même, parce que ça peut être un bon défenseur, comme Kevin Durant, qui était au début fait pour. Enfin, fait. Qui était reconnu comme un attaquant exceptionnel et qui, avec son passage à Golden State, on a découvert qu'en fait, ben, il pouvait largement défendre et très bien défendre. Donc, s'il pouvait se passer la même chose avec Brandon Ingram, ce serait parfait. Ce serait parfait pour l'équipe. Zion, pareil, Zion. Steven Adams, pas un gros défenseur, mais ça peut, sous les ailes de Stan Van Gundy, on peut dire que cette équipe, elle peut se mettre à défendre. Et après, on attaque, on lâche les chevaux et c'est parti, quoi, pour que cette équipe fonctionne. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc voilà pour le coaching. Évidemment, cette équipe veut aller en playoff, je suppose, dès son année 2, une 2, puisqu'on va avoir une vraie saison de Zion, un gros point que j'aborde juste après. Mais cette équipe veut aller en playoff, mais moi, je les vois seulement 12e. Alors peut-être que c'est un peu bas, peut-être que je les sous-estime un peu, mais. Alors, Brandon Ingram est devenu All-Star, mais il y a vraiment des équipes avec des très gros joueurs devant. Enfin, je vois Memphis qui a fait une saison folle à la première année de Ja. Je ne vois pas pourquoi il galérerait en deuxième saison. Le Phoenix qu'ont récupéré, enfin, ils ont récupéré Chris Paul et ils ont quand même l'un des meilleurs postes 2 de la ligue. Minnesota qui a un duo aussi très très impressionnant. Donc voilà, pour moi, cette équipe est encore un poil jeune. Et par contre, l'année prochaine, attention, attention. Parce que surtout, donc je disais, Zion, pour revenir sur Zion, il faut absolument qu'il fasse une année complète. C'est très très important pour lui et pour l'équipe. On ne veut pas que son corps l'empêche de devenir le basketteur qu'il devrait être. S'il n'y a pas de blessure, ça peut être fou. Ça peut être juste incroyable ce qu'il va devenir. Pour lui comme pour l'équipe, hein, je l'ai déjà dit. Mais bon, s'il commence à se blesser, c'est surtout ça aussi, j'ai peur. Si Zion se blesse, l'équipe peut moins bien fonctionner, même si elle reste très correcte. Ça peut être un peu compliqué du côté de ce point de vue-là, pardon. Faut pas commencer à se poser des questions sur est-ce que Zion peut jouer en NBA, est-ce que... Non, 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 il va jouer en NBA, il va pas se blesser, et là, cette équipe va être compétitive. Donc c'est ça, en fait, qu'il va falloir gérer du côté des Pels, développer cette espèce de big three de jeunes, donc Lonzo, je pense à Lonzo, Brandon Ingram, et évidemment Zion, hein, qui est, je pense, assez compatible, assez complémentaire pour le coup. Lonzo qui est capable de jouer, enfin qui joue avec le ballon, un super distributeur. Quand tu as Brandon Ingram qui est quand même un très bon shooter, alors c'est vrai qu'à part lui, bon, en termes de shoot chez les Pels, ça risque d'être un peu compliqué. Mais Brandon qui est un super shooter, qui est capable de jouer sans le ballon, même s'il est très dangereux avec le ballon. Et Zion, hein, c'est pareil, hein, va défendre le pick and roll Zion Williamson, enfin Lonzo Ball Zion Williamson ou Brandon Ingram Zion Williamson, ça commence à être très très dangereux. Donc voilà, le temps de mettre en place encore ce Big Three avec les Steven Adams autour, les Eric Bledsoe, parce qu'il y a ça aussi, je ne sais pas si ils feront jouer. Si le coach fera jouer Eric Bledsoe et Lonzo Ball l'un à côté de l'autre, ça me paraît assez, assez osé. Je verrais plus un JJ Redick qui apporterait du shoot aux côtés de Lonzo Ball et Eric Bledsoe venir avec Josh Hart en complément sur le banc, pardon, en tant que double duo de sixième homme. Pourquoi pas, parce que après ça va manquer vraiment de shoot si le 5 aligné c'est Lonzo, Bledsoe, Ingram, Zion et Steven Adams, quoi. Mais voilà, pour arrêter de m'éparpiller et retenir globalement ce que je pense de la saison 2021 des Pels, attention à Stan Van Gundy au coaching, même si on lui fait confiance, il pourra développer les jeunes et apporter un peu de défense. Attention à Zion et pas de blessure. Et développez-moi ce trio pour le futur et pour aller chercher l'année prochaine, je l'espère, une place en playoff. Enfin, en tout cas, dans le play-in. Hein, si on conserve si la NBA décide de conserver le play-in l'année prochaine, voilà, pourquoi pas. Là, pour moi, c'est encore un peu court. Je suis désolé, les fans des Pels. Ne m'envoyez pas des tomates, s'il vous plaît. Donc maintenant qu'on a vu ce que je pensais des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, on va se diriger vers la conférence Est. C'est parti. Alors, les Hornets, les Charlotte Hornets, avec l'accent, ce bon vieil accent américain. Alors, donc, les Hornets ont fini 9e de la conférence Est en 2020. Ils ne sont pas allés dans la bulle, si je ne dis pas de bêtises. 23 victoires pour 42 défaites, 9e place de l'Est. Qu'est-ce que ça a donné. Donc, je viens de le dire, à la porte des playoffs, même s'ils ne sont pas allés dans la bulle, hein, parce qu'il y avait un trop grand écart, a priori, trop grand écart, ou trop, ouais, trop grand écart avec, avec Orlando, hein, qui était 8e. Bon, ben, dommage, j'ai envie de dire. On a vu de très belles choses aux Hornets cette saison, et des choses aussi très moyennes, ce qui fait la 9e place, évidemment. On commence par, on va dire, les belles choses. Le duo Graham-Rosière en tête de gondole, si je puis parler ainsi. Bon, commençons par Terry Rozier. Terry Rozier qui voulait devenir franchise player. Bon, il n'est pas devenu le franchise player qu'il voulait être, malheureusement. Mais par contre, c'est vrai que ça peut être un bon meneur en NBA. Voilà, donc dans une équipe pour le moment moyenne, hein, il est encore assez jeune, même si il a pas 18 ans non plus, il est encore assez jeune et il peut encore se développer. Voilà, il a montré que c'était un vrai bon gars sur qui on pouvait compter. C'est cool, il a prouvé ce qu'il voulait, à moitié, allez, disons à moitié, il a à moitié prouvé ce qu'il voulait. Par contre, un mec qui a explosé cette année chez les Hornets, à défaut d'être Terry Rozier, c'est Devonte Graham, qui lui, en saison de sophomore, 18-7, hein, c'est ce que je me suis noté, si c'est bon, les stats, 18 points, 7 rebonds de moyenne. Voilà, donc en saison sophomore, avec un super pratiquement 40% à 3 points. Dans la discussion du MIP au début de l'année, après c'est vrai que tu ne remportes pas, ou enfin oui, c'est très rare ou même impossible de remporter le trophée de MIP quand tu passes de rookie, donc première année NBA, à sophomore, deuxième année NBA. Malheureusement pour lui, hein, sinon il aurait été dans la discussion. Après, il y avait des gars très sérieux cette année. Mais voilà, lui, il a explosé, il a éclaboussé la franchise de son talent. Donc ça, c'est super pour les Hornets. C'est magnifique. On a aussi le petit rookie PJ Washington. Hein, je vais faire une rubrique rookie maintenant. Qui le rookie PJ Washington qui a montré des belles choses, une très belle adresse au shoot, malgré une adresse au lancer franc assez médiocre. En termes de 3 points, le gamin, il est là, il s'est montré, il a fait un super début de saison magnifique. Après bon, rookie wall, tout ça, on connaît, ça a été plus compliqué, mais en tout cas, ils peuvent compter sur lui sur les postes 3-4, et c'est bien le seul sur qui ils peuvent compter pour les postes 4, car bon, la raquette de Charlotte, c'est pas ça, hein, que ce soit l'année dernière ou l'année prochaine, comme j'hésiterai pas à le dire, quand c'est Cody Zeller ton titulaire dans la raquette, ça commence à être moyen. Hein, je sais pas s'il est fait pour être titulaire au poste 5, Cody Zeller et Bismack Biyombo en backup, excusez-moi. Je cherche mes mots, c'est pas non plus incroyable, donc galère dans la raquette, mais à côté de ça, on a des très belles choses, hein. On est pareil sur une équipe qui veut de la jeunesse, qui veut se reconstruire un petit peu, et ça passe aussi par Miles Bridges, hein, j'en ai pas parlé, mais Miles Bridges qui a step up, qui a fait une jolie saison. Donc voilà, globalement, saison moyenne, mais assez positive de la part de Charlotte. À part ça, c'est l'une des deux équipes qui a fait le match de Paris. Bravo, on peut applaudir. Voilà, j'applaudis. Car, match à Paris quand même. Alors, je n'ai pas eu la chance d'y aller, mais je l'ai vu à la télévision, comme on dit. Voilà, Malik Monk nous a régalé. Hein. Shout out Malik Monk, si tu nous écoutes, qui a fait le Malik Monk Game. Le fameux Malik Monk Game, parce qu'à côté de ça, c'est vrai que sa saison n'est pas exceptionnelle. Donc on retiendra surtout ça pour ça. En parlant de Paris, de France, Nicolas Batum, on continue dans la galère, mais visiblement, là, avec cet été, slash automne, hein, je dirais toujours été, mais ce mois de novembre, même décembre, parce qu'en fait, lui, sa situation s'est plutôt décousue au cours du mois de décembre. Voilà, donc galère, fin de parcours avec les Hornets. Bah écoutez, on va directement passer par transition, c'est parti là, je speedrun la preview. Donc comme je le disais, Nicolas Batum a été coupé par les Hornets, donc afin de pouvoir donner à Gordon Hayward un très gros contrat, je crois. Gordon Hayward, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris un 120 sur 4, hein, quelque chose comme ça, oui. Il a dû prendre un 30 millions l'année, lui. Alors, bonne idée ou pas, hein, puisqu'on sait que depuis la blessure qu'il a eue, malheureusement, avec les Celtics, c'est plus le Gordon Hayward d'avant. Alors, c'est vrai que chez Boston, il pouvait pas vraiment montrer le talent qu'il aurait voulu, puisqu'il y avait le duo Jaylen Brown-Jason Tatum qui prenait beaucoup de place sur les ailes. Donc, j'espère pour les Hornets que c'est un bon choix. Et que ça ne deviendra pas un contrat pourri, mais en tout cas, voilà, ça fait jaser un peu. Est-ce que c'est une sûreté de prendre Gordon Hayward à ce prix-là? Est-ce que il n'aurait pas été pris par une autre équipe à ce prix-là? Bon, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un potentiel All-Star sur les ailes, donc ça fait toujours du bien. C'est clair que ça fait toujours du bien quand on voit. Les ailes de l'année dernière, c'est très jeune, donc bon, voilà, un vrai joueur arrive dans cette équipe. Évidemment, comment ne pas parler de leur troisième choix de draft, puisqu'on le rappelle, les Hornets avaient le troisième choix de draft et qu'ils ont pris le petit frère Ball, donc LaMelo. Tiens, oh bah j'ai mis, mais c'est fou ça, elles sont trop bien faites ces previews. J'ai mis Lonzo Ball et LaMelo Ball dans la même preview, après avoir parlé brièvement hier de LiAngelo, donc le troisième frère. LaMelo Ball qui arrive à la main. Alors, on en parlera dans le futur et l'année 2021. Il va falloir faire fonctionner ce trio à la main. Mais ce qui est sûr, c'est que LaMelo va prendre une place de titulaire. Ça va donner beaucoup de visu à la franchise, hein. Tout le monde va vouloir s'arracher le joli maillot des Hornets avec le nom Ball floqué derrière. Donc ça, c'est une très bonne chose, un très bon joueur à développer qui a une très belle vision de jeu, assez grand. Bon, la défense, on verra ça plus tard, c'est pas l'objet pour le moment. Mais un très bon joueur, capable de shooter, capable de créer pour les autres, capable de créer pour lui. C'est vraiment un joueur très intéressant qu'ont récupéré les Hornets. C'est très bien joué. Donc à côté de ça, j'ai dit le cut de Nicolas Batum. Enfin, un Bismack Biyombo qui va arrêter de prendre 17 millions l'année, parce que Bismack Biyombo qui prend 17 millions l'année pour prendre 6 rebonds et mettre 6 points. Ça va pas, hein, on va bien. Je veux bien que les joueurs de basket soient bien payés, là ça va pas. Il a un salaire correct, mais malheureusement, on s'attendait à ce que les Hornets prennent donc soit un gros pivot à la draft, soit prennent un gros pivot free agent ou fassent des trades pour avoir une raquette potable. Mais là, bon, ça va être très très léger, puisque ça repart avec, on fait CTRL C, CTRL V du côté des Hornets pour leur raquette. Ça repart avec Cody Zeller, Bismack Biyombo en guise de poste 5. Bon, voilà, je le redis, c'est pas forcément les meilleurs choix possibles, mais a priori, si ils sont contents comme ça, tant mieux. Tant mieux, l'avenir, on va dire que l'avenir est sur le backcourt plutôt que la raquette. Ils s'occuperont peut-être de ça, soit dans l'année, hein, pourquoi pas, soit dans les prochaines saisons, ça peut marcher aussi. De toute manière, on va voir comment cette équipe va fonctionner, hein, avec James Borrego à sa tête. Donc c'est parti sur la saison 2021. Ça va être simple, entre guillemets. Il y a trois potentiels de joueurs titulaires sur le backcourt. On a dit Devonte Graham qui a fait une incroyable saison sophomore, Terry Rozier qui a fait une jolie saison, très solide en tant que titulaire, et LaMelo Ball qui débarque, et il ne va pas débarquer pour jouer sur le banc. Donc il va falloir faire un choix. Moi, je pencherai plus sur le choix Terry Rozier sur le banc en sixième homme, mais j'ai peur qu'il ne soit pas content. J'ai peur qu'il ne soit pas content. Mais je pense que Devonte Graham, LaMelo Ball, ça peut bien fitter. J'ai cette intuition, Devonte Graham qui est capable de scorer à côté de LaMelo Ball. En plus, c'est tous les deux des petits joueurs. Hein. Graham et Terry Rozier à côté de LaMelo. Ça va faire du bien quand même d'avoir un LaMelo, même s'il ne défend pas. Ça va faire du bien d'avoir un joueur de plus d'un mètre 85 sur les lignes arrière. Mais voilà, il va falloir trouver un équilibre entre ces trois loustiques et savoir qui sera titulaire et qui ira sur le banc, fera le rôle de sixième homme de luxe. Ça peut être aussi un rôle parfait, hein. On le sait, il y a des joueurs qui vivent comme ça et qui sont très heureux. Ensuite, la raquette, là je viens de l'expliquer brièvement, ils vont se faire défoncer dans la raquette. Alors c'est un choix. Mais j'ai peur que ça leur porte préjudice. C'est aussi pour ça que je ne vois pas Charlotte très haut. Hein. Ça reste une équipe en construction où il n'y a pas de raquette. Donc, ça ne peut pas engendrer beaucoup de victoires malgré l'apport de Gordon. De Gordon. Mais oui, si, Gordon Hayward. Pourquoi j'ai pas... Aaron Gordon, Gordon Hayward, ça me. Je bégaye. Et donc le dernier point pour moi se situe là, autour de Charlotte. Est-ce que Hayward va bien s'intégrer et est-ce qu'il va être, entre guillemets, à la hauteur de son contrat? Est-ce qu'il va pouvoir encadrer les jeunes? Je pense que c'est un bon gars, hein. Il n'y a pas de raison, il n'a jamais eu une attitude de tête de con comme on pourrait le voir James Harden en ce moment. Mais en tout cas, il va falloir lui qu'il soit à la hauteur de son contrat et qu'il prouve qu'il peut redevenir le joueur qu'il était à Utah avant sa terrible blessure. On sait que c'est pas facile de revenir après des grosses blessures pour n'importe quel type de joueur. Il y en a qui en reviennent très bien, il y en a qui ont plus de mal. Pour le moment, Gordon Hayward se situe plus dans la partie, on va dire, des joueurs qui ont un peu plus de mal à revenir de la blessure, malgré le fait qu'il ait fait une très jolie saison à Boston l'année dernière. Écoutez, je n'attends plus que de voir ce qui peut se passer du côté de Charlotte. Assez intrigué quand même par ce que va donner LaMelo et par le trio, là, le trio sur le backcourt. Voilà, je suis peut-être allé un peu vite sur Charlotte. C'est pas une équipe que je connais très 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 bien, donc je m'en excuse. Mais je pense qu'on a pas mal fait le tour quand même, hein, pour résumer un peu la saison 2020, ce qui s'est passé cet été, évidemment, Gordon Hayward, LaMelo, voilà, c'est l'avenir, je me répète. Mais donc ça, pour moi, 12e et pas énormément de victoires. Pareil que l'Ouest finalement, ça s'est pas mal renforcé du côté de l'Est aussi. Hein. On pense, il y a eu Russ Westbrook qui est allé du côté des Wizards, alors que les Wizards, on pensait qu'ils allaient un peu descendre dans leur conférence. Atlanta, évidemment, j'en parlerai. Orlando, qui, malgré le fait qu'ils soient, que ce soit la même équipe, encore une fois, une troisième année consécutive, c'est très bien, hein, mais c'est pas forcément une équipe qui fonctionne. Je pense qu'ils sont quand même au-dessus des Hornets. Donc voilà, 12e place pour les Hornets et pareil, une équipe qui est tournée vers le futur. Ce sera toujours intéressant à observer. Voilà. J'espère que cette preview vous aura plu. Donc on est sur le quatrième épisode, mine de rien. Ça commence à faire beaucoup. Enfin, faire beaucoup, non, mais ça commence à avancer petit à petit, c'est très bien. Les tableaux, je vous le rappelle, hein, comme d'hab, n'hésitez pas à venir discuter sur Instagram. En plus, vous pouvez voir mes classements, hein, donc si le podcast ne vous suffit pas à vous imaginer ce que j'ai décrit, de toute manière, vous avez les épisodes précédents, hein, pour aller vous enrichir sur ce que j'ai pu dire, et surtout Instagram pour aller voir les tableaux et les petits récapitulatifs. Donc je parle des joueurs importants, des joueurs majeurs selon moi, et vous avez en plus un petit résumé avec ce que je pense de la saison à venir et les potentiels oublis que j'aurais fait pendant la preview audio sur le podcast. Voilà, n'hésitez pas à venir discuter sur Instagram. Et moi, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à demain pour les places 11. N'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et me dire ce que vous en pensez, surtout, c'est le plus important. Que ce soit positif ou négatif, je prends tout, histoire de pouvoir m'améliorer et que mon contenu puisse vous plaire au plus grand nombre possible. Pardon, ça y est, je suis fatigué. Sur ce, je vous laisse profiter de votre week-end. Je vous revois quand même demain. Pour les places 11, on commence à grimper petit à petit dans chaque conférence. C'était Lenny, salut!